RFJ Info.
Le journal d'Isabelle Chapat.
Bonjour. Nouveau remous autour de la présidence du Parlement 2018. Le député PDC Yves Gigon dénonce un acharnement de la justice contre Pauline Queulot et dépose une dénonciation pénale. L'UDC Damien Lachat annonce, lui, une motion interne. C'est une relique des temps passés qui a survécu jusqu'à nos jours. Deux botanistes ont découvert que l'Anthriscus stenophylla pousse encore sur une petite surface en ajoie. Cette plante est désormais cultivée dans les serres de Jurassica. Les trottoirs en vieille ville de Saint-Ursanne font partie du patrimoine. Le projet communal de les abaisser pour faciliter la mobilité doit être revu. L'Office fédéral de la culture est intervenu pour préserver cette caractéristique historique. Le ciel est agité aujourd'hui, les averses balaient la région dans un temps venteux. Les pluies se renforcent dans la soirée. La limite des chutes de neige sera très variable, entre 800 et 1200 mètres. Rebondissement dans l'affaire de la députée Pauline Queulot, l'élu PDC Yves Gigon monte au créneau et lance une procédure auprès du ministère public. Le président du groupe parlementaire UDC demande pour sa part la création d'une commission d'enquête parlementaire. Dans les deux cas, la séparation des pouvoirs est évoquée. Côté PDC, la dénonciation pénale déposée par le parlementaire Ajoulot va jusqu'à dénoncer une violation du secret de fonction. Les explications d'Émilie Momentaler.
Oui, selon Yves Gigon, des informations confidentielles ont été données par des membres de la justice jurassienne à des personnes qui n'étaient pas habilitées à les obtenir. Et cela avant même que la principale intéressée n'ait été entendue. Le député PDC souligne aussi le fait que, dans cette affaire, le tribunal cantonal agit en tant qu'organe responsable de la formation des avocats stagiaires et non pas en tant qu'autorité judiciaire. De ce fait, en tant que président de la commission de la justice, il s'inquiète de son fonctionnement au regard de la manière dont il gère le cas de Pauline Queulot. Yves Gigon.
Que je vois là, cet acharnement contre Pauline Queulot pour finalement un point insignifiant, un simple problème d'inscription à des examens. On veut faire passer ça pour un psychodrame.
Quels sont les éléments qui vous font pencher du côté d'une violation du secret de fonction ?
Mais tous les éléments, quand on se permet d'enquêter pour savoir si Pauline Queulot a retiré des recommandés, qu'on va jusqu'à demander l'extrait de pièces, mais c'est de l'acharnement, alors même que, à mon sens, c'est un problème du domaine privé et professionnel qui n'avait en tout cas pas à être communiqué dans la presse et à des membres du bureau. Je relève des faits de communication du tribunal cantonal et plus particulièrement de son président, M. Jean Moritz, puisque c'est lui qui a pris les devants au début, au milieu et à la fin de cette histoire.
Personnellement visé par la dénonciation pénale d'Yves Gigon, le président du tribunal cantonal et membre de la commission des examens d'avocats, Jean Moritz, nous a répondu par téléphone ce matin. Tout d'abord, il s'inquiète qu'on s'en prenne ainsi à la justice jurassienne et de la pression que de telles manœuvres peuvent faire peser sur le besoin d'indépendance des institutions. Ensuite, il réfute une quelconque violation du secret de fonction. Selon lui, son instance n'a fait que corriger des informations erronées parues dans les médias. Il nie aussi s'être substitué à l'enquêtrice désignée par la commission des examens en menant lui-même des actes enquête. Il nous a indiqué avoir simplement fourni au dossier des documents en possession du tribunal. Jean Moritz souligne également que lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir menti à une autorité publique, ce n'est plus une affaire privée. De plus, selon lui, ce cas comporte un intérêt public prépondérant. Le tribunal cantonal se devait aussi d'être transparent vis-à-vis du Parlement jurassien, qui devait être averti de la situation avant d'élire Pauline Queulot à sa présidence.
Parallèlement, Damien Lachat va déposer une motion interne au Parlement en lien avec l'affaire qui concerne Pauline Queulot. Le président du groupe UDC au législatif demande donc la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de François Comte.
Damien Lachat souhaite savoir si divers principes ont été respectés. Le président du groupe UDC cite notamment la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence, le principe de proportionnalité, la définition de l'intérêt public prépondérant ou encore la communication publique. Damien Lachat estime que de multiples interactions entre le bureau du Parlement, le tribunal cantonal, les députés et la presse, ainsi que le mélange entre vie privée et vie publique, ont fait naître des interrogations. Pour lui, le Parlement, dans son rôle de haute surveillance des autorités judiciaires, se doit de faire toute la lumière sur la place de la justice et sur son rôle dans les attributions du législatif. Damien Lachat nous explique ce qui le chiffonne en particulier dans cette affaire.
Moi, ce qui me gêne, c'est un peu le déballage public et puis les communiqués du tribunal sur une affaire en cours. Moi, j'estime encore qu'il existe la présomption d'innocence et puis qu'on n'a pas le droit de communiquer comme ça officiellement au public sur des détails sur une procédure en cours.
Est-ce que pour vous, il y a eu, selon vous, violation de la séparation des pouvoirs de la part de la justice ?
Alors moi, je pense qu'il y a eu une ingérence. Oui, moi, je pense qu'ils sont allés un petit peu trop loin par rapport à leur attribution. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et puis, c'est l'idée de cette commission pour vraiment voir est-ce que c'était vraiment le cas ou pas.
Vous parlez d'ingérence, pas forcément de violation ?
Alors, violation, ça, on ne peut pas le dire parce qu'il faudra entendre les juges. Donc ça, ce sera aussi intéressant d'entendre leur version des faits. Mais moi, je pense une ingérence, il y a quand même.
La motion interne de Damien Lacha sera déposée mercredi au Parlement jurassien et sera débattue lors d'une séance dans le courant de l'année prochaine.
Et le PDC convoque cet après-midi une conférence de presse sur cette élection à la présidence du Parlement 2018. Nous y reviendrons bien entendu dans notre édition de 18h. Les Jurassiens seront appelés aux urnes le 4 mars prochain. Ils devront se prononcer sur la consultation fédérale relative au dépôt de déchets radioactifs en couches géologiques profondes. Le Conseil fédéral a retenu deux sites situés à moins de 50 km du Jura, dans les cantons d'Argovie et de Soleure. La loi autorise la tenue d'un vote lorsqu'un tel projet se trouve proche du territoire cantonal. Deux questions distinctes correspondant à chacun des deux sites seront posées au peuple jurassien. Le docteur Gilles Simon est le nouveau médecin-chef du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Le gouvernement jurassien a nommé le citoyen de Queuve à cette fonction dès le 1er janvier prochain. Le docteur Gilles Simon assumera la direction médicale de l'unité pour enfants et adolescents qui regroupe les consultations ambulatoires de Delémont, Porrentruy, Seigne-Légier et de la Villa-Blanche à Porrentruy. La préservation du cachet historique de Saint-Ursanne impose de revoir son plan spécial. Le maire de Clos-du-Doubs a annoncé jeudi dernier en assemblée communale avoir reçu une demande en ce sens de l'Office fédéral de la culture. L'OFC souhaite que les trottoirs soient maintenus en vieille ville, sans quoi les subventions pourraient être revues à la baisse. Le projet initial prévoyait d'abaisser les bordures pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques patrimoniales priment dans le cas de la cité médiévale, selon l'organe de la Confédération. Un argument que comprend le maire Albert Picré.
Les modifications qui ont été demandées par l'Office fédéral de la culture, c'est de revenir sur les trottoirs, maintenir un cachet de Saint-Ursanne tel qu'il existe.
Vous comprenez cette décision de faire passer l'intérêt historique ou patrimonial avant l'accessibilité et la mobilité ?
Alors c'est peut-être ça qu'aujourd'hui on a un peu de peine à comprendre, en se disant ben aujourd'hui il faut penser aux personnes âgées, penser aux personnes qui ont de la mobilité réduite. C'est un petit peu là qu'on avait élaboré notre plan spécial en disant mais comme ça tout le monde a des accès facilités. Et maintenant, ben voilà, quand on a une ville comme Saint-Ursanne qui est quand même inscrite au patrimoine, ben il faut comprendre cette attitude en disant mais il faut qu'il reste des traces de l'ancien, il faut qu'il reste quelque chose que les gens viennent voir, viennent visiter.
De son côté, le responsable du dossier à l'OFC nous a confié que le maintien des bordures n'empiétera pas sur la mobilité, puisque les secteurs concernés seront transformés en zones de rencontre limitées à 20 km/h. La mobilité aussi occupe les élus de Porrentruy. Le conseil de ville se réunit ce soir à 18h30. Il est appelé à se prononcer sur un crédit cadre de 950 000 francs destiné à améliorer l'accessibilité de l'espace public. L'objectif est de mener à bien environ 240 mesures listées par l'association Équiterre entre 2019 et 2022 pour faciliter le déplacement des personnes âgées ou à mobilité réduite dans la ville. Bressaucourt rejoint Porrentruy et Fontenay dans le processus de fusion. Les paroissiens de Bressaucourt se sont prononcés hier soir. Les trois paroisses ont désormais validé le projet. Un comité sera formé prochainement pour définir les contours de cette fusion. À terme, d'ici 3 ans, selon les estimations, les trois entités ne devraient former plus qu'une seule paroisse et regrouper ainsi plus de 5000 fidèles. Elle a pu se retrouver dans l'estomac d'un mammouth. La plante très rare à laquelle on s'intéresse ce midi a traversé les âges et proviendrait de l'époque glaciaire. Son petit nom, Lantriscus stenophylla, soit cerfeuil à feuilles étroites. Cette ombellifère a été découverte par le scientifique Jules Thurmann au début du 19e siècle, puis elle a disparu des livres de référence. En 2013, deux botanistes, Philippe et Laurent Jura, sont partis à sa recherche. Il s'avère que Lantriscus survit sur une petite centaine de mètres carrés dans une zone très froide de Haute-Ajoie et sur quelques sites en Allemagne. Depuis, quelques plants sont cultivés à Porrentruy dans les serres de Jurassica. Philippe Jura.
Donc c'est vraiment une plante qu'on peut trouver uniquement sur 5 sites dans le Jura, aussi bien souabe que suisse. ce qui fait qu'on la considère comme endémique jurassienne, une plante qu'on trouve que là, sur ces 5 sites dans le monde. Et puis, il n'y en a pas beaucoup de plantes endémiques à la chaîne jurassienne. Il y en a une autre qui est aussi de la famille des carottes. Il n'y a pas d'ours ou berce du Jura, qui, elle, est beaucoup plus répandue. Mais donc, cette région jurassienne possède finalement très peu d'espèces de plantes qui sont présentes uniquement dans cette chaîne. Donc, c'est vraiment intéressant, ces deux espèces-là.
Pourquoi cette espèce-là vous plaît particulièrement? Pourquoi vous donnez autant d'énergie pour l'antriscus?
Alors, le fait qu'elle pousse sur un milieu si particulier, le fait qu'elle adore le froid... Donc ça nous met la puce à l'oreille qu'elle a probablement résisté là depuis très longtemps. Et puis on aimerait, à travers cette plante, pouvoir comprendre quelle végétation on pouvait trouver à l'époque. Ça nous donne une espèce de fenêtre sur le passé. Et puis on essaye d'imaginer à quoi pouvait bien ressembler cette flore entre la chaîne jurassienne et l'Islandsis au nord de l'Europe. Et puis, ben, c'est par des petites observations comme ça qu'on arrive à se faire une idée des plantes qui ont pu subsister à ces endroits.
Damien Becker, paléontologue ici à Jurassica. Cet antriscus aurait pu se retrouver dans un estomac de mammouth?
Disons que c'est une hypothèse, effectivement. Ça peut être une relique de la flore de l'époque des mammouths, tout comme l'éboulis froid, qui est une relique de l'environnement partiel des mammouths il y a 30, 40 ou 50 000 ans.
Des propos recueillis par Nancy Chapuis. Des tests génétiques vont être menés prochainement pour déterminer la place de l'antriscus stenophylla dans la famille des ombellifères. On vous parlera plus longuement de cette plante demain dans la matinale. Il n'y aura pas de rallonge pour l'AVS. Le National voulait octroyer 442 millions de francs supplémentaires à l'assurance vieillesse. Les sénateurs ne voulaient pas verser un centime de plus. Ils l'ont emporté ce matin. Tout au bout du débat sur le budget et par 26 voix contre 15, ils ont rejeté le compromis trouvé par des élus des deux chambres qui proposaient une rallonge ramenée à 370 millions. Le socialiste Christian Levrat était fâché à l'issue des débats.
C'est la première fois que le Conseil des États rejette une proposition de conciliation en matière de budget. C'est le vote le plus important sur les questions budgétaires. C'est l'expression de la volonté de gouverner ensemble, de trouver des solutions ensemble. Et je suis un peu choqué de voir mes collègues privilégier des intérêts purement partisans. Le match retour du 24 septembre, plutôt que la recherche d'une solution commune à des questions budgétaires.
Le nom est venu du PDC, du PLR et d'une partie de l'UDC. On écoute le conseiller national démocrate chrétien Thomas Seguer.
Nous, on ne veut pas qu'il y ait les 370 millions qui étaient à la discussion finalement soient versés à l'AVS parce que ça ne sert finalement pas à grand-chose pour cette AVS qui a besoin d'être réformée fondamentalement. On veut que cet argent-là il soit versé pour la réduction de la dette de la Confédération. Et puis après, l'année prochaine, on fait une analyse sérieuse, on réforme cette AVS et puis... peut-être on pourra utiliser de l'argent.
L'AVS, ce n'est pas plus urgent que le remboursement de la dette?
Oui, vous voyez, les 370 millions qui étaient à disposition à la fin pour réformer l'AVS, ça ne sert effectivement à rien. C'est, comme disait Jean-René Fournier, une demi-goutte dans l'océan.
Le débat sur le budget est terminé et selon la décision définitive, la Confédération versera l'an prochain 8 milliards 653 millions de francs à l'AVS. Les salaires des cadres d'entreprises dont la Confédération est le principal propriétaire ou l'actionnaire majoritaire devraient être plafonnés à 500 000 francs par an. Le National a adopté aujourd'hui par 111 voix contre 74 une motion du socialiste bernois Corrado Pardini. Le Conseil des États doit encore se prononcer. Le président bolivien est en visite de travail à Berne. Aujourd'hui, un gigantesque projet ferroviaire en Amérique du Sud sera au cœur des discussions entre la présidente de la Confédération Doris Leuthard et Evo Morales. Ce dernier devrait signer une déclaration d'intention qui vise à faciliter la participation des entreprises suisses à ce projet pharaonique sur lequel mise aussi la Chine. Bioceanico, comme il a été baptisé, prévoit la construction de quelque 3700 km de voies ferrées reliant le Brésil au Pérou, en passant par la Bolivie, pour un investissement évalué entre 12 et 15 milliards de dollars.
RFJ, les 12h29.
Le sport avec la loterie romande.
C'est un score comme on en voit rarement en hockey sur glace. Hier soir, le HC de Limon-Vallée a marqué pas moins de 20 buts en un seul match. Les Vadais jouaient à la maison contre le Locle, la lanterne rouge du championnat de deuxième ligue. Deux éléments qui ne suffisent pas à justifier ce résultat, d'autant plus exceptionnel à ce niveau. L'entraîneur du HC de Limon-Vallée tente d'expliquer cette performance, Michael Chetla.
Ça, c'est incroyable. Je pense qu'on a un peu passé par tous les états. On perdait quand même 1-0, après 3-2. Et puis, d'avoir marqué le 3-3 assez rapidement. Puis après, quand on a marqué le 4-3, après la machine était lancée. On a fini la fin du deuxième à 8-3. Et puis après, le troisième tiers, voilà, ils ont changé de goalie. Mais après, je ne sais pas, l'équipe elle a complètement aussi changé d'intensité. Et puis, il y a eu goal sur goal. Ouais, c'était assez fou.
C'est ce changement de gardien qui fait que le score a pris une telle ampleur ?
Je ne sais pas. Mais après, peut-être que aussi l'équipe... avait enfin les jambes là et puis enfin commencé à jouer. Et puis c'est vrai qu'on est monté en puissance au fil du match. Et puis je pense chaque fois qu'on marquait un goal, ça poussait les gars. Et puis ça nous a un petit peu aidé, je pense qu'ils changent de goalie. Mais après voilà, on a mis comme des beaux goals. Et puis les gars, ils ont vraiment travaillé à fond jusqu'au bout.
On sait qu'il y a une tradition dans le monde du hockey sur glace. L'auteur du 10e but qui doit payer la caisse de bière. Là hier soir, l'auteur du 20e but, qu'est-ce qu'il a dû faire?
On n'a pas encore décidé, on veut préparer ça je pense en allant ce week-end au Port du Soleil. Et puis on verra bien.
Michael Chetla au micro de Mathieu Schaffner. Le Super G féminin de Saint-Moritz sera finalement disputé à Val d'Isère. La Fédération internationale de ski l'a annoncé ce matin sur son site internet. Cette épreuve n'a pas pu se dérouler la semaine dernière dans les Grisons en raison du brouillard. Elle se tiendra donc samedi dans la station française. Ce Super G va remplacer la descente qui était au programme dans deux jours.
Merci Isabelle. Dans quelques secondes, on va passer à la météo des neiges. Météo tout court. Tout d'abord, un ciel souvent très nuageux avec de fréquentes averses localement soutenues et se renforçant en fin de journée et en soirée ainsi que dans la nuit. Voilà ce que prévoient les experts de Météo News pour la suite de cette journée avec une limite des chutes de neige très variable qui oscillera entre 800 et 1200 mètres. Le vent pourra encore souffler par rafale à 60-70 km/h en pleine, voire 100 km/h sur les crêtes et le mercure, lui, grimpera au mieux jusqu'à 2 degrés aux Franches-Montagnes et 6 en pleine. Demain, le ciel sera nuageux avec les dernières averses le matin et des flocons possibles des 700 à 900 mètres. Puis on nous annonce une accalmie passagère avec de belles éclaircies et peu ou pas d'averses. Le temps deviendra plus nuageux vers la fin de la journée avec le retour d'averses de neige devenant fréquentes en soirée et dans la nuit. Il fera demain à l'aube entre moins 1 et 2 degrés, puis au meilleur de la journée, 1 à Seignelégier, 5 à Porrentruy et 6 à Delémont et Moutier.